Bonsoir. Une trentaine de morts, dont des enfants et des femmes, ainsi que plusieurs maisons brûlées. C'est le bilan des nouveaux affrontements entre le peuple Teke et Yaka dans la nuit de lundi à mardi au village Fadiaka dans le territoire de Kwamout, province Maïndombe. Par conséquent, toutes les activités sont paralysées sur place et un déplacement massif de la population y est observé. Quelle lecture faire de la persistance du conflit entre les Teke et les Yaka à Kwamout? Nous en parlons ce soir avec Maître Jacques Mbombaka. Il est vice-gouverneur de la province du Maïndombe. Maître Jacques Mbombaka, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
David Bisaka, député provincial, élu de Kwamout dans le Maïndombe. David Bisaka, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Passisa Pamba, député national, élu de Popokabaka, province du Kwango. Il est vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Passisa Pamba, bonsoir.
À tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Abdulaziz Thioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Abdulaziz Thioy, bonsoir.
Bonsoir à toi et à mes co-débatteurs et aux auditeurs de Radio Okapi.
Vos réactions, auditeurs de Radio Okapi, nous les avons reçues. C'est le cas de Maître Francis Visso depuis Goma, au Nord Kivu. Mes analyses me poussent à croire qu'il y a des tireurs de ficelles politiciens dans ce conflit. Et l'Amiri Lukusa, lui, pense que cette situation perdure à cause de l'absence totale de l'autorité de l'État. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le conflit interethnique entre le peuple Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe, redouble d'intensité. Des sources concordantes parlent d'une trentaine de morts et de plusieurs maisons brûlées à la suite d'un nouvel affrontement au village Fadiaka. Toutes les activités sont paralysées sur place. Un déplacement massif de la population est observé depuis la nuit. Le point avec Irène Boma.
C'est dans la nuit de lundi à ce mardi que les faits se sont déroulés précisément au village Fadiaka à plus de 150 km de la cité de Kwamout. Selon la société civile locale, 31 personnes dont les enfants et les femmes sont tuées, y compris le chef du village qui est décapité. Plusieurs maisons sont parties en fumée et les populations en débandade se dirigent vers des contrées voisines. Martin Souta est le président de la société civile de Kwamout. Il rapporte que certaines personnes sont arrêtées, parmi lesquelles des hommes en uniforme.
Ce qui est vrai dans ce groupe-là qu'on avait arrêté, il y a des corps militaires dedans. C'est-à-dire qu'ils sont mêlés avec le civil.
Le député national Guy Moussomo, élu de Kwamout, qui avance quant à lui un bilan d'au moins 35 morts, pense que des militaires doivent être déployés dans des villages à problème.
Effectivement, il y a eu beaucoup de morts. Les contingents sont allés vers Kwamout, mais la RN17 est toujours à l'insécurité. On doit éteindre les feux là où il y a les feux. On ne doit pas éteindre les feux par des discours dans des bureaux climatisés. S'il s'agit d'envoyer des militaires, par exemple, on a dit à Mibé, il y a un groupe là-bas, qu'on envoie des militaires.
Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Maître Jacques Mbombaka, vice-gouverneur de la province du Maïndombe, qu'est-ce qui explique la persistance de ce conflit entre Teke et Yaka? Ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure.
Bien entendu, madame, je te remercie d'abord de ce verbe prêché que vous m'octroyez. Et donc, il est si nécessaire de rappeler, et de les rappeler davantage. Et au départ, il faut savoir que le peuple Teke, c'est un peuple de paix. Il en va de même pour le peuple Yaka. Ce sont deux peuples-là qui ont vécu des années bien avant sans qu'il y ait ces conflits. Il faut dire aussi que pendant ces conflits, il faut soulever le fait que le gouverneur de province à l'époque, intérimaire que j'étais, notamment le gouverneur actuel qui est Madame Rita Bola, nous nous sommes, chacun en ce qui le concerne, déployés les efforts pour remettre de l'ordre. Aussi, une chose est vraie, il faut reconnaître d'abord l'histoire de ces conflits.
Monsieur le vice-gouverneur, vous êtes là?
Je pense bien que...
Monsieur le vice-gouverneur, on vous a perdu tout à l'heure, oui. Vous parliez de la genèse de ce conflit. C'est quoi le problème exactement entre les Tek et les Aka?
Voilà. Bien entendu, les conflits persistent. L'origine même de ces conflits relève du fait d'une taxation, je dirais, exagérée d'une redevance coutumière. À la base, la surtaxation d'une redevance coutumière imposée par un chef coutumier à ses peuples Yaka. Comme je l'ai toujours dit tantôt, que, bien, il est des principes même par la loi que les taxes, la redevance et bien d'autres doivent être légalisées. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut se faire sans la loi. Maintenant, la question fondamentale à la problématique aujourd'hui de ces conflits, c'est celle de savoir est-ce que la taxation imposée par les chefs coutumiers était-elle légale?
Alors, comment vous répondez à cette question? Est-ce voilà, que cette taxation...
La toute première question.
Voilà, est-ce qu'elle était légale? Est-ce qu'elle est légale, cette taxation?
Quand même, cette taxation violerait la loi, est-ce que la meilleure manière, c'était de se faire justice alors qu'il est des principes?
Monsieur le vice-gouverneur, votre ligne pose d'énormes problèmes. La réalisation va essayer de vous rappeler par la ligne normale, comme WhatsApp pose un problème. David Bissaka, en attendant de retrouver le vice-gouverneur de la province du Maïndombé, vous êtes député provincial élu de Kouamout dans le Maïndombé. Quelle lecture vous faites de ce conflit qui perdure?
Merci, madame, pour cette question et surtout pour jeter votre pas choix sur ma personne. Le conflit ici sème terreur chez nous. Aujourd'hui, madame, je sais pas, je suivais monsieur le gouverneur, bien que sa ligne pose problème. Mais j'aimerais vous dire que, en particulier, ce conflit sur les redevances coutumières, moi j'ai dit que cette hypothèse-là est déjà fausse. Donc on ne peut pas tabler ce conflit sur cette fameuse redevance. Ce qui est vrai est que nos frères Yaka que nous avons reçu il y a longtemps, avait un projet que nous ne connaissons pas, avait un projet que nous ignorons, car on leur cédait de louper des terres pour cultiver. Ces gens-là n'achetaient pas des terres. Ces gens-là venaient chercher des campements agricoles pour faire des manioc, faire le maïs, cultiver le maïs, et ainsi de suite, pour... n'est-ce pas, de trouver les moyens de vivre chez nous. Mais aujourd'hui, si on va dire que le conflit là, c'est suite à l'exagération de redevances coutumières, moi je dirais, il n'y a pas que des Bayaka qui sont dans les territoires de Kouamoutou, madame. Dans les territoires de Kouamoutou, c'est un territoire hospitalier. Le peuple Teke, c'est un peuple hospitalier aussi, comme je le disais tantôt. Le Bayaka avait un projet, n'est-ce pas, de chercher la terre chez nous et l'occuper. Le projet-là disait que les Bayaka viendront chez nous et ils vont confisquer des terres. Ils nous mettront des chefs coutumiers et ils resteront là. Madame, si c'était pour les redevances coutumières, je vous dis, même les Bangala devraient hausser les taux. Même le Baswahili qui sont chez nous, les Bayanzi, les Bakongo qui sont chez nous, auraient aussi fait la même chose. Mais moi, je mets déjà de côté la raison ou le but de conflit. Ou en fait, les gens qui disent que c'est suite à la redevance coutumière.
Donc pour vous, Monsieur David, c'est un problème des terres qui est à la base de ce conflit. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un projet des Bayaka de venir chercher les terres chez vous et les occuper. Ce projet-là, vous l'avez lu quelque part ou c'est des rumeurs qui circulent?
Ce ne sont pas des rumeurs, nous avons des lettres. Tous les chefs coutumiers tekés ont des lettres de M. Tianfou adressées à l'administrateur du territoire de Kouamoutou, les demandant à laisser les Bayaka. Ils sont chez eux et d'ailleurs les Batekés ne sont pas originaires de Kouamoutou, machin, des histoires comme ça. Nous avons des lettres écrites par un chef coutumier de Kassongolunda. Et j'ose croire que même Monsieur le vice-gouverneur qui me suit maintenant pourrait avoir des copies de cette lettre-là. Voilà.
La réalisation me signale que le vice-gouverneur est en ligne. Maître Jack, vous nous entendez? On l'a encore perdu, on va essayer de le rappeler. Encore une fois, vous allez vraiment nous excuser pour ces désagréments. Pasita Pamba, vous êtes député national élu de Popo Kabaka, province du Kwango. Vous êtes vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Comment vous analysez ce conflit Tekeyaka?
Merci beaucoup, madame le journaliste, de m'associer à cette émission. J'aurais voulu directement que le gouverneur que vous avez perdu sur la ligne puisse développer ce qu'il était en train de dire, mais malheureusement on ne l'a pas.
Et on va lui redonner la parole.
D'accord, je suis quelque peu surpris d'entendre mon collègue député parler d'un projet. À ce que je sache, quand un député prononce quelque chose de ce genre, il doit détenir des éléments qui attestent ce qu'il est en train d'avancer. Ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, j'ai suivi mon collègue Moussoma, qui est l'élu national, quand ce conflit a commencé. Au niveau national, nous nous sommes retrouvés pour demander directement à ce que ce peuple qui ont vécu ensemble des années durant, dans la fraternité, ne peuvent pas aujourd'hui s'entretuer comme cela se passe. Et je ne suis pas sûr que ce sont ce peuple-là qui sont en train de s'entretuer, à mon humble avis. Quand mon collègue député provincial parle d'un Kianfo, il doit vite abandonner cette piste, parce que le chef Kianfo auquel il fait allusion, c'est un roi, et ce roi-là n'a pas le droit et il n'en aura jamais d'attraper des terres dans le Kouamoutou et d'investir des chefs coutumiers. Non, il ne le fera pas, il l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Alors si par aventure quelqu'un se serait déguisé en chef Kassongolunda, on doit vite l'identifier, l'arrêter et le mettre hors d'état de nuire. Parce que nous tous, nous pensons que ce peuple qui est allé travailler là-bas s'est marié avec le peuple Teke et ils ont constitué des familles aujourd'hui que nous ne pouvons pas jeter comme ça en pâture dans la rue parce qu'il y a un problème de terre. Ce qu'il doit y avoir un margoulin, un citoyen qui profite de cette situation pour opposer deux peuples qui n'ont jamais connu de difficultés. En suivant même la piste des redevances, je crois que les redevances ne pouvaient pas amener les gens à s'entretuer. Parce que s'il y avait des problèmes de redevances, on se serait mis autour d'une table pour régler ces problèmes. Mais les informations en notre possession dans les réseaux sociaux est que des forces de l'ordre auraient été tuées. Et que aujourd'hui, le peuple Yaka est pourchassé. Il faut se poser la question, qui a tué? Avec quelle arme il a tué? Si on est en face de forces de sécurité, des policiers et des militaires, et qui doivent se trouver en face de gens qui auraient des calibres, pensez-vous que ces deux armes sont-elles proportionnelles pour que les forces de sécurité soient mises en déroute par des gens qui détiendraient des calibres? Non. Moi, je veux plus loin. Parce que dès que le problème a commencé, nous avons demandé à ce que le gouvernement provincial et le gouvernement national devaient vite comprendre qu'il y a un problème de sécurité et qui a déjà pris la dimension nationale. On devait vite entrer dans ces territoires, mettre les services pour pouvoir essayer de dénicher qui est en train de tuer et pour quel motif il est en train de tuer. Il y a un problème de sécurité. Et c'est-à-dire, on ne doit pas continuer à les banaliser pour dire que non, il y a un projet des gens qui sont venus pour occuper des terrains. Non, le problème n'est plus à ce stade. Regardez même le mode opératoire. Lorsque je vois des gens qu'on coupe la tête et qu'on se mette à se promener avec cette tête pour dire nous avons tué. Non, cette culture n'a jamais existé dans la province de Bandundu.
Vous pensez qu'il y aurait une main noire ou des tireurs de ficelles derrière cette situation?
Les services de sécurité doivent vite dénicher. Il y a un autre problème que celui des Teke et de Oumbu et des Yaka, pardon. Parce que ces peuples-là ont toujours habité ensemble. Les redevances, ils les ont toujours payées. Et même s'il y a des problèmes de redevances, cela ne peut pas amener les gens à s'entretuer. Et donc, moi, l'invitation que je fais le plus rapidement possible, les forces de sécurité qui sont là-bas ne doivent pas s'installer à Kwamoto. Elles doivent vite occuper toute la province et surtout les territoires de Kwamoto pour essayer de comprendre. Parce que la délégation gouvernementale qui est descendue a eu le temps d'écouter les Teke et n'a pas rencontré les Yaka. Il fallait aussi que cette délégation rencontre vite les Yaka pour qu'elle se fasse une idée et arrêter cette hémorragie le plus rapidement possible. Donc on n'est pas là en train de chercher de donner raison aux Yaka, ni de donner raison aux Teke. Tout ce qu'il faut, ce peuple-là, c'est le peuple du Grand Bandundu qui a toujours vécu en toute quiétude, doit vite se remettre au travail pour s'occuper de développement. Donc les services de sécurité au niveau national doivent vite s'impliquer dans ces dossiers. Et donc, c'est le gouvernement national maintenant qui doit prendre les choses en main pour éviter des morts d'hommes inutiles.
Maître Jack Mombakia, vous êtes là?
Oui, bien entendu, je suis revenu.
Alors, vous avez suivi les analyses de nos deux élus, nationales et provinciales, par rapport à cette situation.
Il y a le député
David Bisaka balaye d'un revers de la main la cause que vous avez avancée, qui serait à la base de ce conflit Tekeaka. Vous avez parlé d'une surtaxation des redevances coutumières. Et lui, il estime que ça n'a rien à voir avec la cause que vous avez donnée. Lui, il parle plutôt d'un problème des terres.
Bon, écoutez, je ne peux que respecter le point de vue de l'honorable député qui est l'élu du coin. Mais lorsqu'il parle des problèmes des terres, il oublie que les terres en soi n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Quel est l'élément déclencheur des conflits? Parce que les terres existent il y a bien de temps. Le peuple Yaka habite la terre et ça n'a jamais posé de problème avant. Pourquoi cette fois-ci ce problème est arrivé?
Alors il parle d'un projet, justement, un projet de chercher les terres Teke et les occuper.
Bon écoutez, moi je vous parle comme étant gouverneur de province, sans émotion. Je détaille le fait tel quel et puis je vous donne l'exactitude et certitude de ce conflit. Ça veut dire, en d'autres termes, que ce ne serait pas cette surtaxation, aujourd'hui, on ne parlerait pas et ce conflit. Mais il faut aussi, au-delà de tout ça, rappeler le fait que, je dirais,
la gestion de ce conflit à partir du moment où le conflit était né. Comment est-ce que le gouvernement au niveau national et le gouvernement au niveau provincial se sont tour à tour déployés pour remédier à cette situation un peu, inconfortable. Bien entendu, je vous ai dit à l'époque, quand j'étais le gouverneur intérimaire, le conflit commençait. Au début, j'ai dû déployer une équipe de militaires pour aller stabiliser la situation. Et parmi lesquels, dans l'équipe, 5 militaires ont été tués. Rien que les militaires. Et là, déjà, à notre niveau, nous avons estimé que la chose, c'est-à-dire le conflit, était tellement, tellement gravissime et qu'il nécessitait d'autres mécanismes pour bien stabiliser. Aussitôt, réunis en comité provincial de sécurité, nous avons alerté les gouvernements au niveau national afin de solliciter une intervention beaucoup plus musclée, confortable, parce qu'il faut dire que la force que nous avons au niveau des provinces, elle est à coup sûr moins en moins suffisante pour faire face à, je dirais, à un tel conflit, pour autant que si à un certain moment ça dégénérait. Et donc pour le cas d'Estèche, le conflit avait dégénéré. Et sans hésiter, j'allais dire, le gouvernement au niveau national a envoyé une équipe également pour nous appuyer. Et effectivement, qui par après, une autre équipe, je dirais, pour ne pas dire un bataillon, un très bon nombre de des militaires sont venus en intervention pour effectivement nous aider à remédier à la situation. Et donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque cette équipe-là arrive, il faut estimer le fait que beaucoup de temps s'est passé sans pour autant que la situation soit réglée définitivement. Et bien entendu, les uns comme les autres peuvent estimer que voilà, il peut y avoir une main noire. Je me dis la main noire qui serait derrière cette main noire pour gagner quoi après? Mais bien.
Mais ça fait des années et des années que ces peuples vivent ensemble, monsieur le vice-gouverneur. Pourquoi
on peut pas négliger cet aspect
que ce conflit éclate?
On peut pas négliger cet aspect de choses, mais je vous affirme en tout cas avec toute certitude aujourd'hui, je vois loin l'idée et ces mains noires derrière. Mais par contre, la question la plus primordiale, c'est celle qui oppose les gens en ce qui concerne la terre. Eh bien, la terre, lorsque les gens se disputent des terres, c'est des conflits extrêmement difficiles à gérer. Et d'ailleurs, bien entendu, je rejoins l'idée du professeur, je crois, Mouila, qui a proposé l'autre fois dans votre mission de pouvoir installer, une cellule de gestion des conflits au niveau national, qui pourra effectivement étudier chaque conflit et y remédier. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas de Kwamout, je pense que c'est la lanterne, parce que, comme je viens de dire, l'intervention militaire au niveau national est arrivée un peu en retard. Alors, comme le conflit n'est pas concentré à un seul endroit, le conflit, désormais, les Yaka, qui vivent dans le territoire de Kwamout, sont dans plusieurs villages. Et que, si dans un village, ça dégénère, il faut s'entendre aussi que ça puisse aller dans d'autres villages. Et que si le nombre de militaires déployés dans un coin ou encore dans un village n'est pas suffisant pour englober tous les cercles, tous les villages qu'habitent ensemble les peuples Teke et Yaka, eh bien, c'est tout un problème. Parce que dans d'autres villages, il n'existe pas encore cette force pour faire peur à ceux qui voudront bien se venger les uns envers les autres. Et donc, voilà un peu, pour l'instant, ce que nous pouvons encore demander, c'est juste solliciter un peu plus, même bataillon au niveau national pour que l'effectif soit de plus en plus agrandi et déployé dans tous les villages où existent encore des problèmes entre les deux peuples.
On vous garde encore dans cette émission, Maître Jack Bombaka. Abdulaziz Tioy, vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous avez sûrement appris, comme tout le monde, ce qui se passe à Kwamout entre le peuple Teke et Yaka. Plusieurs déplacés depuis le début de ces conflits, plusieurs violations de droits de l'homme. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup. La situation est très, très regrettable. Et nous avions pensé qu'après de tristes mémoires, ce qui s'est passé à Yumbi, dans la même province, que tout allait être mis en œuvre pour prévenir la survenance de ce type de conflit. Et le potentiel pour les conflits communautaires a entraîné des pertes nombreuses en vies humaines. Ce potentiel-là est très élevé. Donc, on l'a vu dans le dossier de Yumbi, et avant Yumbi, on l'avait vu aussi dans le dossier du Grand Kassai. Et l'inquiétude que nous avons, c'est aujourd'hui de voir le conflit prendre de l'ampleur. Parce que, comme cela a été décrit, il y a une expansion du conflit avec des difficultés d'accès qui sont réelles et qui ont été, je pense, rapportées par beaucoup d'acteurs. Donc, circuler sur la route nationale qui mène dans cette zone est devenu aujourd'hui extrêmement risqué, y compris pour les forces de sécurité et de défense. Donc, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a eu des difficultés. Ce qui n'a pas marché, c'est la capacité à prévenir ce conflit. Et ça, encore une fois, ramène à la question de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État en termes de présence, c'est-à-dire la possibilité d'être au plus près des administrés, de manière à pouvoir être le premier niveau d'intervention pour trouver un règlement pacifique à un conflit qui aurait pu être réglé par des voies pacifiques et éviter qu'on en arrive à une situation où il y a des milliers de ménages déplacés, il y a de nombreuses pertes en vies humaines et beaucoup de destructions de propriétés. Aujourd'hui, ce qui est avancé en termes de bilan est un bilan sommaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones qui sont accessibles. Il y a des corps qui n'ont pas pu être enterrés dignement. Et donc, c'est très, très compliqué. Donc, le risque aujourd'hui, c'est d'avoir une réponse. Il faut nécessairement, quand ce genre de situation se passe, évidemment, le premier recours, c'est le recours au rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Donc, on déploie des militaires en nombre. On déploie des policiers en nombre. Dans un contexte où souvent les gens ne sont pas très habitués au contexte, et du coup, le risque, c'est effectivement d'avoir le contraire de l'objectif recherché, c'est-à-dire d'avoir une répression qui peut être sanglante et nous conduire à une crise, je ne le souhaite pas, du type de ce que le Kassai a connu avec l'insurrection Kamuna Sapu. Il y a, je pense, une interpellation à faire pour les originaires, l'élite, les intellectuels, les administratifs, les députés, les élus, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté originaires de cette zone et qui appartiennent aux différentes communautés. Ils sont tous en contact d'une façon ou d'une autre avec leur communauté. Malgré l'éloignement ici, dans ce pays, quand vous allez dans une zone reculée, à la minute près, dès le lendemain, tous les élus qui sont à Kinshasa savent concrètement que vous êtes venus là. Donc, les signes, il est possible de prévenir les conflits. Donc, j'en appelle à la responsabilité de tous. C'est ce que nous pouvons faire et demander que tout le monde s'investisse pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui, aujourd'hui, est à l'origine des atteintes graves aux droits de l'homme et ainsi que des violations du droit international et humanitaire. C'est extrêmement sérieux ce qui est en train de se passer. Et ce conflit est aux portes de Kinshasa, dans une période qui n'est pas très loin des prochaines échéances électorales.
Pensez-vous que cette situation, Abdulaziz Tioy, aurait pu être évitée, que le gouvernement l'a peut-être gérée avec légèreté?
Je ne pourrais pas utiliser ce qualificatif, mais comme je l'ai indiqué, je dis qu'il est possible de gérer un conflit, c'est d'abord travailler à prévenir le conflit. Il y a un conflit n'éclate pas juste comme ça, juste par hasard. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Donc certains ont vu ces signes avant-coureurs et certainement n'ont pas cru bon de pouvoir agir et de s'investir suffisamment pour pouvoir empêcher que le conflit ne puisse dégénérer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est, il y a des causes, les raisons on les connaît. Les raisons c'est que l'administration n'est pas présente partout, les forces de sécurité ne sont pas présentes aussi partout. Donc tout cela fait en sorte effectivement que la rapidité de la réponse peut être retardée et malheureusement au prix de pertes en vies humaines, de propriétés, mais également de déplacements de population.
Merci Abdulaziz. On va ouvrir notre standard pour prendre ces réactions des auditeurs, ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur notre standard. On va se rendre à Goma pour écouter cet auditeur, Ferdinand. Ça sera pour vous, monsieur le vice-gouverneur.
Ferdinand Kiendamina, à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est décevant qu'après le tourisme de toute une équipe gouvernementale dans cette région, la situation ne soit redevenue à la normale. Les mesures idoines devraient être pourtant prises en allant le sens de restaurer la paix entre ces deux peuples. À mon avis, des options devaient être levées, notamment celles militaires et l'autre politique, entre autres dialogues entre les représentants de ces peuples. Sinon, on ne fera que malheureusement compter des morts chaque jour. Faut-il aussi que les politiques s'impliquent, car souvent dans des situations pareilles, il y a toujours eu des tireurs de ficelles qui se cachent dans des bureaux climatisés à Kinshasa. Et malheureusement, c'est la pauvre population qui paye les prix.
Monsieur le vice-gouverneur, comment vous réagissez aux propos de Ferdinand qui nous a appelé depuis Goma?
Bien, je crois que la proposition faite par notre ami de Goma, il n'a pas totalement tort. J'estime que à la phase où nous sommes, exactement, quand bien même l'intervention militaire nous soit parvenue, et il faut aussi relever le fait que nous sommes en train de continuer à plaider pour que qu'on nous ajoute quand même un nombre importantissime, si je peux estimer. Par contre, il ne faut pas non plus négliger l'aspect politique. L'aspect politique, elle est plus importante parce que vous le savez bien, la population... effectivement, écoute quand même leur leader politique. Moi-même qui vous parle à l'époque que j'assumais l'intérim comme vice-gouverneur, on s'était déjà entendu avec le gouverneur de Kwango, c'est-à-dire le gouverneur Petit, pour qu'on puisse se rendre sur terrain en tant que des acteurs politiques et puis faire l'invitation à certains députés élus de Kwamout, notamment l'honorable Guy Bonsomo, et les deux autres honorables députés provinciaux, dont notamment l'honorable David qui est avec nous ensemble ici, et puis essayer d'associer les responsables, je dirais les députés qui sont de la tribu Yaka. Bien entendu, nous rendre sur les lieux et puis essayer quand même de parler, examiner les causes et les facteurs endogène et exogène, afin de mettre fin. Parce que l'aspect militaire seul ne va pas résoudre totalement le problème. Il faut que les acteurs politiques se déplacent. Les acteurs politiques parlent à leurs frères que rien ne sert à combattre parce qu'on ne gagne pas dans la guerre. Chacun de nous doit s'impliquer pour œuvrer pour la paix, bien entendu, et permettre en sorte que les deux peuples, les relations qui existent entre les deux peuples se renforcent, redeviennent à l'état, je dirais, ab initio, et ça permettra, en tout cas, qu'on puisse réussir. Sans cela, je pense que comme notre frère de Goma, qui a vécu de telles situations, qui comprend vraiment les problèmes, que c'est très difficile que nous puissions remédier rien que par l'armée, sans que les deux peuples ne soient sur la même table en train de discuter les problèmes.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, comment vous répondez très brièvement à ceux qui pensent que si cette situation perdure, c'est à cause de l'absence de l'autorité de l'État? Très brièvement.
Non, non, non. Bon, écoutez, normalement, absence de l'autorité de l'État, je peux vraiment... ne pas être d'accord partiellement avec notre frère pour le simple fait que le gouvernement provincial, aussitôt informé des faits, avait déployé, vous le savez bien à l'époque, une équipe sur terrain bien avant pour essayer de mettre de l'ordre, imposer l'autorité de l'État. Ce qui était, je dirais, la paix était revenue totalement. Et bien après, quand la situation a encore repris, le gouvernement provincial a renvoyé une autre équipe dont 5 policiers ont été tués. Et quand nous avons constaté que ça devient quand même plus sérieux, tuer 5 policiers lourdement armés, nous avons fait l'appel parce qu'il faut dire que l'effectif que nous avons en province ce n'est pas des effectifs d'aussi importants.
Merci.
Il faut recourir cette fois-là au niveau national et nous n'avons pas hésité à informer le VPN qui lui aussi n'a pas tardé à poser le problème au Conseil des ministres et moins de temps après, nous avons vu l'intervention du niveau national venir en rescousse à Kouamout. Et là, nous disons l'effectif, parce que le conflit n'est pas à un même endroit, il nous faut, une fois de plus, en tout cas, une autre intervention pour pouvoir placer les éléments partout, là où il y a des problèmes et des conflits.
David Bisaka, député provincial élu de Kouamout dans le Maïndombe, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu.
C'est Augustin Katanga Wangoi depuis la ville de Kindu dans le Maniema. L'État congolais est en train de faillir à ses missions traditionnelles qui est la sécurité des personnes et de leur bien. Je ne comprends pas lorsque l'État est incapable de régler les conflits intercommunautaires. Que dire de la guerre de l'Est imposée par les puissances étrangères? Il est impératif que le service de sécurité puisse démissionner. La persistance de l'insécurité entre les deux communautés est due à l'absence de l'autorité de l'État. L'État devait s'impliquer pour savoir les véritables tireurs de ficelles qui sont à Kinshasa, qu'ils soient traduits en justice, qui sont en quête de positionnement politique pour les échéances électorales de 2023. Que les auteurs puissent être traduits en justice pour décourager leurs parrains politiques.
David Bisaka, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, Madame la journaliste. Malheureusement, vous n'avez pas pris le temps de me suivre. Vous nous entrons dans des questions. C'est bien. Notre frère de Wom, notre frère là a raison. Il a vraiment raison. Moi, je voulais juste stigmatiser la piste redevance coutumière. Madame la journaliste, dans le Kouamoutou, il n'y a pas que des Tékés qui sont venus travailler. Il y a des Bangala, il y a les Bakongo, il y a pas mal de gens chez nous. On a reçu des gens de toutes les provinces. Mais pourquoi seulement les Bayaka qui revendiquent de RDD, l'autorité de l'État? Mais, madame, la province de, en fait, quoi ça? Le territoire de Kouamoutou est abandonné. Le territoire de Kouamoutou est abandonné dans son triste sort. Je vous dis comme élu de ce coin. Quand j'ai suivi, l'intervention de l'honorable, Passy, c'est normal parce que tout ce qu'il est en train de dire là, on l'apprend. On l'appelle, il lit ça sur les réseaux sociaux. Mais je vous dis, madame, je suis honorable David. Je suis un habitant de ce coin-là et de Sikwa Eli. Je connais ce qui se passe chez moi. Je vous dis qu'aujourd'hui, si on parlera des redevances coutumières, moi je dis cette piste-là est déjà rejetée. C'était à Doumou, dans le groupement Bateke Sid. Aujourd'hui, c'est généralisé dans tous les Kouamoutou. Les gens qui tient en Gandabangala, qui a exagéré la redevance en Gandabangala? Les gens qui ont tué hier à Fadiaka, à l'est du territoire, qui a imposé des redevances exorbitantes à ces gens-là? Non. Aujourd'hui, à Kimangounou, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette piste-là. L'autorité de l'État, comment voulez-vous dans un territoire où, par exemple, à Massiambo, il y a un SIAT de la police, un SIAT avec 4 éléments de la police et une arme? Madame, la sécurisation de cette population n'est pas une faveur que l'État veut faire à cette population. C'est un droit, c'est vraiment un droit le plus légitime. C'est un droit le plus légitime. On a remarqué un abandon total. L'État a abandonné la population du territoire de Kouamoutou. Et si les gens diraient qu'il y a des tireurs de ficelles, moi je dis mais tireurs de ficelles politiques, c'est l'État congolais. Nous, à travers vos ondes, ça fait aujourd'hui un mois,
On criait chaque jour qu'il y avait quelque chose ne tenait pas chez nous. L'honorable dit, l'honorable Moïse et moi, nous sommes partis voir le VPF. Il nous a pas réussi à 3 reprises. Vérifiez dans ses registres. Il nous a pas réussi, lui, le VPF. Et parmi les tireurs, nous disons, le chef de l'État, bon, il prend les informations. Mais le VPM, pourquoi il ne recevait pas les députés de Kouamoutou quand on voulait lui parler de ce qui s'est passé à Kouamoutou? Et aujourd'hui, là, axe routier bloqué, il y a des barrières presque partout. Il n'y a pas de militaires. Est-ce qu'il fallait vraiment, dans l'ère où nous sommes, demander au VPM d'envoyer les militaires, les policiers, envoyer une gens dans le Kouamoutou, et pourtant toutes les autorités là connaissent très bien ce qui se passe chez nous. Quand on est en train de tirer à Fadjaka, il y a combien de policiers à Fadjaka? Le VPM peut nous dire ça?
Pourquoi vous, députés élus de Kouamoutou, par exemple, vous n'avez jamais pris la peine d'organiser ne fût-ce qu'un point de presse pour expliquer clairement ce qui se passe dans le coin?
Peut-être vous n'avez pas suivi. Nous l'avons fait dans plusieurs maisons de presse. On a tenu des points de presse, des interviews chez vous ici aujourd'hui. C'est pour la énième fois que je monte au créneau sur cette situation, madame. L'État a failli à sa mission. On n'a pas une armée au Congo, je vous dis ça. C'est David qui dit ça, on n'a pas une armée.
Merci.
On est en train de tuer les gens, on nous envoie 7 militaires. On nous envoie 7 militaires, madame. C'est vraiment une faveur que l'État veut faire à la population de Kouamoutou. Ou bien c'est un droit de l'État pour sécuriser cette population-là.
Merci David Bissaka, on va vous redonner la parole pour proposer des pistes de solutions afin de mettre fin à ce conflit Teke Yaka. Mais en attendant, on va prendre pour M. Passisa Pamba cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa.
Junior Bompong depuis Kinshasa. La persistance de ce conflit fait penser en premier cri d'analyse que l'autorité de l'État est quasiment absente. Et cela risque de recréer un autre phénomène dit de Yumbi Bis. C'est quoi le dessous des cartes de cette affaire? Les articles 51 et 66 de la Constitution de la RDC ont-ils vraiment un sens pour les populations Teke et Yaka? Je pense que ces gens ignorent complètement les lois du pays. Alors, de ce fait, le pouvoir public doit s'impliquer pour calmer la situation et réconcilier ces deux factions communautaires au risque d'assister au pire.
Beaucoup d'auditeurs reviennent sur l'absence de l'autorité de l'État. Monsieur Passi Zapamba, est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Au regard de l'intervention, madame, du collègue député provincial, vous sentez que il dénonce qu'à 3 reprises, ils sont passés pour voir les VPM et que les VPM ne les auraient pas reçus. Ça, c'est un problème de gestion. Vous savez, un ministère comme celui de l'Intérieur doit anticiper sur les événements. Il ne peut pas courir derrière les événements. Un élément de plus, le député provincial parle des barrières érigées sur la route. Et les réseaux sociaux ont relayé que dans ces barrières, tout véhicule qui arrive, on fait descendre la population pour identifier qui est Teke, qui est Yaka. Et en parlant de Yaka, les statistiques en notre possession pour les premiers arrivants à Mongata, sur une cinquantaine de personnes qui sont arrivées, plus ou moins 38 sont allées dans le Masbanimba, qui est le territoire, qui est la province du Kwilu. Mais l'étiquette qui passe, ce sont les Bayaka. Et vous comprenez directement que l'autorité de l'État doit s'imposer. À la date d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui est arrivé à Kouamoutou par la voie fluviale, devait aussi très rapidement faire le toilettage de la route nationale jusqu'à la province de Bandundu et essayer d'identifier tous les coins où se posent encore des problèmes. D'abord, pour rétablir la paix, instaurer la sécurité et puis amener les gens au dialogue. Parce que je ne pense pas que le peuple Teke et le peuple Yaka doivent se battre pour des terres. Non, il y a quelque chose d'autre qui nécessite l'attention des services de sécurité. Je dis, j'insiste, que les services de sécurité devaient avancer. Et comme ils ne l'ont pas fait, ils ont l'obligation maintenant, avec les politiques, très rapidement, de sensibiliser tous ceux qui ont une escarcelle de pouvoir pour que l'on puisse ramener rapidement la paix et restaurer la vie de paisible, Teke et Yaka, qui ont vécu longtemps ensemble et qui vivent encore ensemble et qui ont tous besoin de la paix. D'ailleurs, ceux qui sont allés à Kwamoto, quand ils ont essayé de nous briefer, ils ont dit que nous avons besoin de ces Yaka pour vivre ensemble. Il fallait aussi entendre le son de Yaka et trouver vite un compromis. Et ça, c'est l'autorité de l'État. C'est à lui maintenant que revient la responsabilité de rétablir l'ordre public.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Bukavu.
Isaac Mampori qui de Bukavu, au sud Kivu. Qu'est-ce qui explique vraiment cette passivité du gouvernement face aux hostilités dont les victimes restent les pauvres citoyens abandonnés à leur triste sort? Si à Bunagana, il y a l'armée rwandaise bien équipée, y a-t-il à Kwamout pour que les forces de l'ordre ne peuvent pas maîtriser? Et avec tout cela, les tenants du pouvoir veulent-ils se faire reconduire au second mandat par ceux-là même s'ils abandonnent?
Abdulaziz Thioye, je rappelle que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Puisque le conflit existe déjà et semble perdurer, que faut-il pour essayer de mettre fin à ce conflit et réconcilier ces deux peuples, Teke et Yaka?
Il faut absolument, ça a été dit par certains interlocuteurs, certains de mes interlocuteurs, ce qui a été dit est clair. Il faut, je pense, il y a l'idée qui a été, l'initiative qui a été prise d'envoyer les autorités coutumières des trois communautés Soukou, Yaka et Teke pour sensibiliser est une bonne initiative. Je pense qu'il faut continuer et poursuivre dans cette direction-là, parallèlement aux autres efforts, parce qu'il n'y a pas que les chefs coutumiers. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, qu'il y a des acteurs qui ont de l'influence, qui ont des responsabilités au niveau politique, qui leur permettent de pouvoir aujourd'hui influer sur auprès des populations, parce que tous ces jeunes-là qui participent aujourd'hui au conflit, qui ont pris les armes, des fusils de chasse et autres, ils reçoivent du soutien quelque part. Alors, qui sont les personnes qui les soutiennent? Il faudra établir les responsabilités le moment venu, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de sauver les vies, mettre fin au conflit, encourager les communautés à poursuivre, essayer de régler leurs problèmes par des voies pacifiques et faire confiance à l'autorité, à l'État et à travers ces institutions, notamment la justice. Il faut nécessairement lutter contre l'impunité, que les auteurs, ceux qui sont les auteurs intellectuels de ce conflit puissent être réellement identifiés et poursuivis, parce que on espérait que le procès de Yumbi aurait pu servir d'exemple à certains acteurs politiques, administratifs, sécuritaires et autres, d'éviter de jouer sur le fil pour attiser des tensions qui pourraient coûter la vie à des centaines de personnes, ce à quoi nous sommes en train aujourd'hui progressivement d'assister. Je pense que lutter contre l'impunité, restaurer l'autorité de l'État, essayer de cultiver le vivre ensemble et renforcer la recherche de résolution, de mode de résolution pacifique des conflits.
Merci Abdulaziz Thioye, on va considérer cela comme votre conclusion. Maître Jack Bumbakia, vice-gouverneur de la province du Maïndombe, nous apprenons que les militaires qui ont été déployés à Maïndombe dans le Kwamout ne sont pas suffisamment bien équipés pour mener à bien leur travail. Est-ce que vous confirmez cela?
Bien entendu, comme je viens de vous dire, donc ils sont certainement envoyés un nombre qui, selon moi, j'estime, qui n'est pas proportionnel par rapport aux endroits, aux différents endroits qui posent des problèmes aujourd'hui. Et donc, il y a nécessité de pouvoir envoyer même toute une région militaire. Au besoin, un bataillon pour, bien entendu, répartir dans chaque coin du territoire, là où existent les problèmes. Aussi, effectivement, nous avons déjà alerté le niveau national. Madame la gouverneure le fait tous les jours. pour que, d'ailleurs, l'intervention qui ne va pas tarder à venir, nous le souhaitons bien le plus rapidement possible. Aussi, comme je venais de dire...
Est-ce qu'une rencontre entre les deux communautés est envisageable?
Très envisageable. Très envisageable. Les responsables, tant politiques que coutumiers, sont disponibles à discuter. Et donc, c'est quelque chose qui se fera, je crois, dans les jours à venir, mais très prochainement, pour essayer de ramener, aussitôt que l'intervention militaire et les VPL s'y sont rendus sur les lieux. Reste alors, je dirais, l'aspect tout à fait politique, l'aspect tout à fait coutumier, de pouvoir réunir les gens une fois de plus autour de la table et sans passion, discuter de la paix, rien que la paix, quoi.
Alors, une dernière question avant de vous libérer, monsieur le vice-gouverneur. Qu'en est-il des déplacés? Est-ce qu'ils sont pris en charge par le gouvernement?
Bon, il faut d'abord dire le fait que le gouvernement national s'est déployé, je dirais, s'est battu à 1000 morceaux par madame la ministre des Affaires sociales, qui s'est déplacée personnellement avec le VPN pour venir en intervention, c'est-à-dire au secours de cette population en détresse. Le gouvernement provincial également se rend par les moyens de bord, se déploie en tout état de cause pour essayer quand même d'appuyer tant soit peu les populations en détresse. Voilà également, on se bat.
Merci.
On estime que ça ira avec ce que nous sommes en train de faire.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. David Bissaka, vos propositions pour mettre fin à ce conflit, essayez de vous résumer. Nous sommes à la fin de l'émission.
Merci beaucoup. Pour mettre fin à cette histoire...
On va rappeler David. Passez à Pamba, en attendant de retrouver David. Quelles sont vos propositions à vous?
Les propositions, madame le journaliste, sont très simples. Les dialogues, les deux peuples sont disposés à dialoguer, mais il faut qu'on crée les conditions de ce dialogue. Et ces conditions ne peuvent être créées que par l'État. Quant à mon collègue député provincial, ils doivent vite renoncer à cette piste-là de stigmatiser les Yaka. Ce sont tous des habitants de la population de Bandundu qui vivent ensemble depuis très longtemps et qui sont disposés à vivre en paix avec tout le monde. Et donc, c'est l'État qui doit vite apporter des solutions le plus rapidement pour rétablir la paix et remettre les gens au travail en vue de leur développement.
Merci, Passise Pamba, député national, élu de Popokiabakia. David Bissaka, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame le journaliste.
On vous écoute. Soyez bref.
Je suis... Bon, en fait, être bref... Ok, merci beaucoup. La démission pure et simple du VPM, de l'intérieur, il a favorisé, c'est lui, il a favorisé cette activité à la base. Le chef de l'État n'est pas bien informé par lui. Je vous parle comme un leader de Kwamutu et aussi député de l'Union Sacrée. Comme député de l'Union Sacrée, je demande au VPM de démissionner. Déjà, dès ce soir, si pas ce soir, demain qu'il puisse démissionner, parce qu'il a sacrifié ma population. La solution militaire est vraiment nécessaire aujourd'hui. La négociation viendra après. Le rétablissement de l'autorité de l'État dans les Kwamutu. Les militaires, on va avoir des militaires avec des outils nécessaires. Madame, hier, on a décapité un chef à Fadjaka. Et à Fadjaka, il n'y a qu'un seul policier sans armes. Un commandant sans armes. Il est seul sans éléments. Vous pouvez croire, Fadjaka, un grand village avec plus de 10 000 habitants, sécurisé par un policier au 21e siècle. Donc, je demande à l'État congolais de sécuriser la population de Kwamutu, de rétablir l'autorité de l'État dans le territoire de Kwamutu.
Merci.
Et après, ça viendra les solutions politiques chercher à réunir cette communauté-là.
Merci, merci David.
Madame.
Rétablir l'autorité de l'État, on vous a compris. David Bisaka, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Martha Sebunjangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Claude Siala qui est à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.